C'est une audience éprouvante, une affaire sordide qui a brisé de nombreuses vies. Le procès de l'ancien père Prénat s'achève aujourd'hui à Lyon. Les victimes ont-elles eu les réponses qu'elles attendaient? 10 se sont constituées partie civile, mais il serait des centaines, voire des milliers, à avoir subi les agressions sexuelles de cet homme dans les années 70 et 80. Bonjour Jean Boudot.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'avocat de l'une des victimes, Mathieu Farco. Oui. Comment votre client vit-il ce procès, d'autant qu'il n'avait jamais revu le père Prénat depuis les faits?
Oui, le procès c'est toujours une rencontre. C'est une rencontre particulière où on retrouve des années après, 25 ans après, pour Mathieu, celui qui est à l'origine de son malheur. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que ces choses-là se passent. Il vit ce procès avec un sentiment très partagé. Il avait besoin du procès lui-même, comme toutes les victimes d'ailleurs, pour rétablir en lui notamment un certain nombre de choses. Et puis, sur cet aspect-là, les choses sont plutôt réussies. Et puis, il attendait évidemment de Bernard Prénat un certain nombre de mots, de ressentis qui nous laisseraient comprendre tous qu'il avait non seulement compris les ravages qu'il avait causés, mais qu'il en éprouvait un regret profond, et là-dessus il y a une frustration assez irréductible en réalité qui reste au terme de ce procès face à un homme qui a peut-être évolué un peu mais qui semble pas avoir évolué beaucoup sur ces terrains-là dans la prise en compte, dans la conscience des souffrances et des ravages qu'il a fait.
Le père Prénat a dit qu'il demandait pardon, mais il n'a pas vraiment exprimé de sentiment de culpabilité. C'est ça qu'attendait votre client, que ce soit dit plus clairement?
Oui, plus que dit plus clairement, je pense qu'on attend. Enfin, il attendait en tout cas de ressentir qu'il y avait quelque chose en Bernard Prénat, effectivement, qui était de l'ordre de la souffrance, finalement, du remords. Mais peut-être qu'on attendait trop. Les psychiatres se sont succédés à la barre et on nous explique que Bernard Prénat est quand même enfermé dans une forme de déni, alors dont il a en partie évolué, parce qu'il semble capable quand même aujourd'hui de comprendre qu'en face de lui, il y a des victimes. Et ça, c'était pas forcément le cas des années auparavant, mais pas encore complètement évolué au point de ressentir. Il intellectualise, il a compris qu'il avait fait quelque chose de mal, et donc on a effectivement des mots qui sont des mots de pardon et des mots de regret, ça on va pas lui enlever. Que lui dirait-on si c'était pas le cas d'ailleurs? Mais au niveau du ressenti, on sent qu'il manque encore quelque chose, et les psychiatres viennent nous expliquer que c'est, semble-t-il, un peu inévitable à ce stade-là.
Voilà. Cette semaine, Bernard Prénat a raconté avoir été lui-même agressé pendant son enfance par un sacristain, par un moniteur de colonie, par des enseignants au séminaire. Il ne l'avait jamais dit avant. Est-ce que ça change le regard sur cet homme qu'on a présenté comme le monstre absolu?
Alors si j'essaye de parler en faisant des distinctions en fonction des parties civiles, oui et non. Certaines victimes refusent d'entendre ça. Certaines pensent qu'il est dans un discours utilitariste. Certaines doutent absolument que ce soit vrai, y compris parce que dans le discours, les choses ont été dites de manière un peu différente. C'était d'abord deux agresseurs et puis quatre. Et puis un certain nombre d'autres, dont celui que j'accompagne, considère tout à fait possible que ce soit arrivé. Ça donnerait un élément d'explication complémentaire à la déviance qui est profondément ancrée dans cet homme. Mais l'élément d'explication supplémentaire, c'est pas un élément de solution supplémentaire. C'était une des thématiques abordées hier dans le procès. Quelle que soit la manière dont il est devenu pédophile et dont s'est ancrée en lui cette attirance pour les mineurs, de toute façon, il l'a pas choisi. C'est-à-dire qu'il s'est pas levé à 6 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans en disant « bah tiens, plus tard, moi, je serai pédophile ». On est sur quelque chose de toute façon dans ces situations-là qui est au départ subi par celui qui a ces attirances et ces pulsions-là. Sauf que la différence entre les uns et les autres, c'est que certains vont aller se soigner, s'éloigner des enfants et veiller à ne pas faire de mal, et puis d'autres vont laisser libre cours à leurs pulsions, voire, et c'est le cas du père Prénat, se créer des réservoirs d'enfants en créant des groupes de scoop autonomes.
Et d'ailleurs, à ce sujet, Bernard Prénat dit que sa hiérarchie ne l'a pas aidé, qu'à chaque fois il allait se confesser et qu'il obtenait l'absolution. C'est donc à la fois son procès à lui et, évidemment, en toile de front, le procès d'une certaine église à une certaine époque.
Oui, alors d'une certaine église, c'est sûr, à une certaine époque, je ne sais pas, parce que l'époque, elle est quand même pas très éloignée. quand le secrétaire pour la congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican écrivait au cardinal Barbarin d'éviter le scandale public, on était quand même en 2015, hein, donc on n'est pas non plus. Il faut pas imaginer que tout ça s'est passé simplement dans les années 80. C'est effectivement en partie le procès de l'Église ou d'une certaine Église, et d'ailleurs au-delà du procès du cardinal Barbarin, parce que sur le cardinal Barbarin, on avait un focus sur une période donnée. Et là, le focus est évidemment très élargi. Mmh. On revient beaucoup plus loin en arrière. Et la manière dont les choses ont été traitées par l'Église et par le diocèse de Lyon est proprement ahurissante en réalité. Si on résume vraiment en quelques mots, on sait les tendances pédophiles du père Prénat au séminaire, on hésite à leur donner et puis on leur donne quand même. Il va se confesser régulièrement pour dire « j'agresse des petits-enfants ». On lui dit évidemment « c'est pas bien, il faut pas le faire », il s'engage à ne plus le faire. Et puis son confesseur le revoit arriver un mois et demi, deux mois, quatre mois après, pour lui raconter la même chose. Et quand l'affaire éclate, parce que la confession c'est une chose, c'est secret, mais quand l'affaire éclate en 90-91, Monsieur de Courtrai va écarter d'un revers de manche le problème qu'a sa Prénat en lui disant écoute, tu recommences pas, vraiment Bernard, tu recommences pas, mais on continue comme ça, c'est l'avenir qui compte. Et ce qu'on va constater finalement, c'est que il n'y aura pas eu de sanctions, il n'y aura pas eu d'exclusion, il n'y aura pas eu de dénonciation. On lui aura d'abord donné une petite paroisse de 800 âmes, mais si une fois que ces choses-là ont été faites, quelque temps, il va retrouver des paroisses, il va évidemment être systématiquement au contact d'enfants, il va être promu doyen. Enfin, l'Église lui a envoyé un message, c'est pas grave, voilà, parce que la manière dont ça a été géré était quelque chose de ce registre-là. Et qu'on nous dise ça à l'époque, parce que.
Oui, juste parce qu'il nous reste vraiment mais quelques secondes, Jean Boudot, j'aimerais savoir comment vous le vivez, ce procès qui, j'imagine, ça marque une vie d'avocat, il n'y a pas des moments d'audience comme ça tous les jours.
Non, c'est pour ce genre, je pense, d'audience, comme pour l'audience du cardinal Barbarin, qu'on a choisi nos métiers. C'est-à-dire que là, on a un peu l'impression de faire œuvre utile au-delà, mais c'est déjà fondamental, de celui qu'on essaye d'accompagner dans des moments comme ça. On se rend bien compte que ces procès-là ont un impact en dehors de la salle d'audience. Mais... Et s'ils permettent... Oui.
Non, allez-y.
Et s'ils permettent de rappeler quelques évidences et de faire prendre conscience peut-être du degré de traumatisme des gamins victimes de ces faits-là, c'est une œuvre utile à laquelle on est forcément heureux de participer.
Merci Jean Boudot, merci avocat de l'une des parties civiles au procès du père Prénat qui se tient en ce moment à Lyon.